J'espère que vous n'êtes pas trop plombé par l'écoute de ces textes. Rien qu'en les lisant, moi, ça me... Et que vous êtes encore attentifs pour écouter ce que j'ai préparé pour vous avec l'aide du Saint-Esprit sur ces textes difficiles. Chaque dimanche, nous lisons et annonçons l'Évangile. Et nous nous efforçons de le vivre chaque jour comme ce qu'il est. Évangile, c'est la bonne nouvelle. Mais vraiment, ce matin, ce que nous avons entendu dans les trois textes, en tout cas dans le deuxième et le troisième, sonne plutôt comme de mauvaises nouvelles. Le texte de Luc raconte le sacrifice de Galiléens condamnés par Pilate, la mort de 18 personnes sur lesquelles s'est écrasée une tour à Siloé. Et puis nous est contée la curieuse et bien célèbre histoire du figuier qui ne donne pas de fruits et qui menace d'être coupé. Comme bonne nouvelle, vous êtes bien d'accord avec moi, il y a mieux. L'Évangile est incarné. C'est-à-dire que la bonne nouvelle, c'est une personne. C'est la personne de Jésus-Christ. L'Évangile vit dans notre Seigneur et Sauveur, et c'est ainsi qu'il se donne et qu'il existe. Lui-même, vrai Dieu et vrai homme à la fois, il vit sur terre entre bonheur et malheur, douceur et violence, bien et mal. Et de la même façon, Jésus-Christ s'adresse aujourd'hui à un monde, le nôtre, qui vit toutes sortes de joies grandioses, mais aussi de terribles souffrances, où des gens sont condamnés innocemment, où des tremblements de terre engloutissent des milliers de vies en quelques minutes, et où la violence peut se déchaîner. Et l'Évangile résonne et vit aussi dans un monde où celles et ceux qui n'apportent pas le rendement nécessaire sont sans scrupule sacrifiés sur l'autel de la productivité. Notre passage d'Évangile nous rappelle d'abord notre finitude. Notre vie sur terre s'arrêtera un jour. Et c'est peut-être cela qui rend aussi ce texte difficile. La mort nous attend. Pourtant, si ce texte dit bien cela, il ne le fait pas pour nous angoisser, mais pour donner sens à notre vie. Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. Ce titre d'un roman à succès que vous avez peut-être lu exprime cela. Reconnaître paisiblement la mort comme faisant partie de la vie va nous aider à vivre plus profondément. Vous le savez, l'Évangile n'est pas un texte de loi qui pointerait son doigt accusateur vers nous pour nous appeler au changement. L'Évangile est une invitation à la vie, même quand il parle de mort. Les deux ne font qu'un. Nous nous approchons de Pâques. La semaine sainte que nous allons célébrer ne se vit qu'avec la mort et la résurrection. Il n'y a pas de matin de Pâques sans Vendredi Saint. Et en vivant les deux célébrations chaque année, chacune d'elles prend plus d'ampleur, plus de profondeur, la mort comme la vie. Oui, l'Évangile, bonne nouvelle, est une histoire de vie et de mort. Autre point très important dans ce texte d'évangile, à propos de notre compréhension de la mort et du mal en général, Jésus sépare radicalement la mort du péché. La mort en Jésus-Christ n'est pas liée au péché, à nos fautes. Les personnes sacrifiées par Pilate ou celles qui ont péri sous la tour de Siloé ne sont pas mortes parce qu'elles étaient plus pécheresses ou coupables que les autres. La mort, la souffrance, la maladie ne sont pas les conséquences d'une faute, même s'il est humain de toujours chercher une cause, une explication, car finalement, c'est tellement plus rassurant de trouver une explication plutôt que de rester avec des questions. Mais vous le savez, le Christ, dans les évangiles, pose bien plus de questions qu'il ne donne de réponses. La foi, c'est la confiance. Ce n'est pas la connaissance. Cela semble facile à dire. Et malheureusement, à chaque catastrophe, sont toujours de nouveau recherchées les causes. Et c'est bien contre ce type de jugement que Jésus s'élève. Le malheur n'est pas la conséquence des fautes commises. Ces jugements sont morbides et toxiques pour la vie. La mort, la souffrance, la maladie adviennent. Elles existent. Elles font partie de nous et de notre monde. La grâce de Dieu pour chacun nous invite à accepter de ne pas tout comprendre et de vivre en confiance. Mais pourtant, dans notre passage, les paroles de Jésus restent dures et nous appellent au changement en renonçant au fatalisme dans notre existence. Imaginons, deux amis se rencontrent un jour dans un café. Ils ont un différend, le ton monte. Des paroles dures sont échangées. Des paroles qu'ils regrettent, car elles ne reflètent pas leurs pensées profondes et les sentiments qui les lient l'un à l'autre. Mais les deux amis se séparent, fâchés, jurant de ne plus jamais se revoir. Deux attitudes sont ensuite possibles. Soit effectivement, personne ne se reparle et alors la relation est perdue. L'amitié, le pardon, tout s'évapore. Une autre option, l'un des deux reprend contact. Peut-être vont-ils finalement se rendre compte que leur relation est devenue impossible et ils se quitteront. Mais au moins, ils auront essayé de prendre soin de leur amitié, comme le jardinier le fait avec le figuier. Ou alors, les deux amis osent une parole, un pardon, réalisant que leur relation peut encore donner des fruits et que cela vaut la peine de travailler, de continuer, de creuser, de cheminer ensemble. Ce choix-là, c'est le choix de la vie. Dans le passage entendu de l'Exode, Moïse rencontre Dieu, au départ par curiosité, pour une flamme qui ne consume pas un buisson. Et puis, il a peur au ventre, Moïse va oser parler à Dieu. « Me voici !» C'est son premier oui à son Dieu, celui de ses pères, Abraham, Isaac et Jacob. Et puis, Dieu le choisit pour l'envoyer délivrer son peuple, mais là encore le doute et la peur. « Serais-je capable ?»« Je serai avec toi, dit Dieu. » Dans le contexte terrible dans lequel vivait le peuple de Dieu, Moïse aurait eu des tas de bonnes raisons pour baisser les bras et renoncer et choisir la mort. Mais aux côtés de Dieu, il décide de choisir la vie. Et accompagné par des paroles de confiance, lui qui ne se pensait pas capable, vous le savez, il va finalement dans un long combat réussir à mener son peuple jusqu'à la terre promise. C'est le choix de la vie. Dans la lettre de Paul aux habitants de Corinthe, l'apôtre nous rappelle la longue histoire du peuple de Dieu au désert, comme un exemple. Dieu nous a créés libres, libres de nos choix au quotidien. Il place devant nous la vie et la mort et nous invite à choisir la vie. Choisir la mort nous fait tomber et nous mène dans les ténèbres. Et nous retrouvons ici le diviseur dont nous avons parlé il y a deux dimanches, avec le récit de Jésus au désert. Le diviseur, le mal, se place entre Dieu et nous pour nous faire douter de notre identité même d'enfant de Dieu. Mais en Christ, nous pouvons faire fuir le mal par la puissance des paroles de vie. Et il en est ainsi de notre relation au Jésus-Christ que nous confessons. Soit nous essayons de l'entretenir, cette relation, d'en prendre soin, comme un jardinier attentionné. Et alors, malgré les coups que nous recevons, nous poursuivons. Soit nous la laissons s'effilocher, cette relation, donnant de la place au diviseur, commençant à douter de notre identité, au risque alors de passer à côté de ce qui donne sens. Et alors là, la mort, oui, aura le dernier mot. Voilà quelques pistes pour ce difficile périple dans ces textes. Des pistes où nous avons navigué entre une tour effondrée et un figuier sans fruit. Alors, ce texte d'évangile peut-il devenir une bonne nouvelle ? Oui, je le crois. Si tel Moïse, nous crions notre oui à Dieu, sans cacher nos peurs ni nos doutes, et que nous acceptons dans la confiance de nous retrousser les manches en bêchant notre jardin intime et en étant exigeants dans nos relations avec nous-mêmes, avec les autres et avec notre Seigneur. Alors oui, c'est vrai, la vie devient possible, belle même, dans un monde aux mille visages qui nous a été donné en partage pour en prendre soin. Amen.